Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Vous connaissez tous la vache qui rit. Je parle du fromage, bien sûr. Dans la réalité, les vaches ne rient pas. D'ailleurs, il n'est même pas prouvé qu'elles aient le sens de l'humour, même si l'expression « l'humour vache » tendrait à laisser penser le contraire. Mais bon, si je vous parle de vache qui rit, qui, je le précise pour les malentendants et ceux qui n'ont pas persévéré au-delà du brevet, ne doit pas être confondu avec le célèbre opéra de Richard Wagner, La Valkyrie, et même si la Valkyrie, qui était une divinité de la mythologie nordique, avait l'habitude de porter des casques avec des cornes de vache, ce qui peut effectivement porter à confusion, c'est pour une autre raison. En tout cas, une chose est certaine, Richard Wagner n'était pas célèbre pour son sens de l'humour, vache ou pas, et le fait de comparer une vache qui rit à l'une de ses Valkyries aurait, je crois, touché l'un de ses testicules sans faire bouger l'autre, et disant cela, je me rends compte à quel point je me suis éloigné de mon point de départ sans avoir pour autant atteint mon point d'arrivée. Ah oui! Si je parle de vache qui rit, c'est parce que je voulais parler du King Kong de Christophe Blin, réédition d'un livre culte de 2004 qui lui-même évoquait le célébrissime film sorti en 1933 et lui-même reméqué notamment par John Guillermin et bien sûr Peter Jackson, sans compter les multiples adaptations sous toutes les formes possibles, sauf à ma connaissance celle d'un fromage fondu et plus encore d'un fromage fondu qui rit. Enfin bon, Christophe Blin est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Christophe Blin.
Bonjour Antoine de Caunes.
Rassurez-moi, vous avez compris quelque chose, ce que je viens de raconter ou pas?
Dans l'ensemble, oui, ça va, je crois que j'ai compris. Il y avait une histoire de fromage.
Oui, il y avait des Valkyries, des vaches qui rient,
oui, Wagner, j'ai entendu Wagner, j'ai entendu fromage.
Vous avez un peu suivi?
Oui, oui, à peu près, ça va.
Ça me rassure. Et vous, Charline? Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Christophe. Rien du tout.
Rien
mais alors,
du
pas
tout.
Une, rien.
Bien, Nada. Ça me rassure aussi. Alors, vous pourrez réécouter tout ça en podcast, au menu également de Popopop, eux. Eux, ce sont Bon Entendeur, le collectif qui remixe la pop culture à la sauce électro. Ils seront avec nous tout à l'heure. Mais justement, Christophe Blin, la pop culture, n'est-ce pas une question d'adaptation? Vous, eux, nous allons y venir. Car justement, ici, il existe une question qui peut faire encore plus flipper qu'un cri de King Kong. Et cette question, c'est... Pour vous, Christophe Blin, c'est quoi la pop culture? Alors attendez, Christophe, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses blénisantes, King Kongiennes, gorillazesques. Oh là, c'est dur à dire ça.
Gorillazesques,
ou même Christophisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle du chanteur Christophisant, justement.
Pour moi, la pop culture, c'est ce que j'ai vu au quotidien. Il y a un mot qui résonne tout le temps au fond de moi, qui s'appelle variété, en fait. La pop, oui, la pop, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. C'est vous, c'est moi. C'est quelque chose qui se transmet.
Ça, c'est pour Christophe. Et pour vous, Christophe?
Je vais répondre en citant un autre chanteur.
Christophe?
Tout est pop. Tout est pop. Non, excusez-moi. Non, c'est une chanson d'Alain Chamfort, récente. Elle doit de l'année dernière, je me trompe.
On en a parlé avec lui.
Voilà. Et c'est tout ce que je peux dire. Tout est pop.
Bon, donc la définition, nous l'avons, tout est pop. Merci Anna Chanfort, merci Christophe Blin. Alors cette pop, cette culture, cette pop culture, on va en parler dans la suite de Popopop, juste après le dernier morceau de Falls in Degrees.
Yeah.
In Degrees, c'est la dernière pépite pop signée du groupe britannique Foz. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité qui aime les gorilles, mais est-ce réciproque? Pour le savoir, passons à son pop portrait, sponsorisé par 30 millions d'amis. Alors oui, un pop portrait, c'est votre pop portrait, bien sûr, Christophe. Mais... Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, un invité dont les héros, outre les gorilles, donc, sont souvent des voyous ou des artistes. Citons donc un artiste avec l'épopée du peintre officiel d'un flibustier dans Isaac le pirate, des voyous avec les aventures sentimentales de trois cow-boys hors la loi d'Angus. Et comme bien sûr ces deux typologies de héros, voyous et artistes, sont loin d'être incompatibles, il les a aussi réunis dans Quai d'Orsay. Oui, c'est une attaque gratuite. Oui, oui, bien sûr. Des chroniques diplomatiques qui lui ont valu d'être multiprimé, notamment par un Fauve d'Or à Angoulême, son deuxième, ce qui fait de lui un spécimen assez rare. Et comme il aime vraiment les artistes, il les illustre aussi, comme les chansons de Thomas Dutronc, les pochettes de Thomas Fersen, l'affiche de tournée, le film de Mathieu Amalric, et réhabilite même le livre-disque avec Barbara Carlotti. Et comme il aime aussi vraiment, vraiment les escrocs, il est venu nous voir aujourd'hui.
Je sais pas comment je dois prendre cette dernière observation, Charline.
Hein ? C'est pas pour vous, je parlais pas de je parlais d'une autre...
manière générale, d'accord. Oui. Ah, de la station. Christophe Blin, on sait que vous aimez les animaux, mais pas que. La preuve avec votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi La révolte de Madame Montjean. C'est un livre écrit par Arlette Farge en 2016. Charline, vous êtes femme?
Oui.
C'est ce que tout le monde dit. Mm-hmm. Et pour ce qui est des révoltes, vous vous y connaissez?
Ah oui. Pardon.
Deux mots sur cette Madame Montjean.
Le livre est sous-titré l'histoire d'un couple d'artisans au siècle des Lumières. Et si la dame en question se révolte, c'est qu'elle veut vivre comme les aristocrates. Être belle, être désirable, connaître l'ivresse des sens. Bref, elle veut du cul.
Christophe Blin, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Oui, je vais essayer. Hier comme aujourd'hui, les révoltes personnelles se glissent dans différents interstices des existences. Ce journal a quelque chose d'un film tourné à vive allure, et l'historien se doit d'essayer de faire tourner la bobine à la même vitesse. Sinon, il ne se rendra jamais compte des réalités et des complexités socio-politiques des uns et des autres. Les ignorer, c'est refuser notre présent. Plus encore, se mettre dans l'impossibilité de s'immerger dans l'avenir.
C'est très sage, là, ce que oui. vient de nous lire Christophe.
C'est du Arlette Farge, c'est très beau.
Bah oui.
Chacun fait son interprétation. Hein.
Pourquoi choisir ce Paris de 1775, raconté par une romancière de 2016?
Pour plusieurs raisons. C'est le dernier livre que j'ai lu qui m'est marqué, et c'était l'occasion d'une rencontre avec Arlette Farge, que j'ai été voir, parce que je voulais me documenter. J'étais en train d'écrire Isaac le pirate, et Arlette Farge était l'historienne la plus recommandée pour m'aider, et parce que sa spécialité, c'est la vie quotidienne au XVIIIe siècle, et particulièrement à Paris. Et c'est un livre qui est très très étrange, parce que il est fait d'après des dépositions qui ont été faites auprès de la police, enfin qui n'avait pas exactement le même statut à l'époque, d'un mari qui se plaint du comportement de sa femme, qui est complètement erratique et très difficile à décrire. D'ailleurs, on ne sait pas bien où il va, parce que ses plaintes et son journal aussi, tient un journal, est assez morcelé. On n'en sait pas la fin, d'ailleurs, on ne connaît pas, on ne sait pas comment l'histoire se termine, et on ne sait pas quelles sont exactement les activités de sa femme, qui, comme vous l'avez dit, cherche à avoir une vie au-dessus de la sienne. Elle vient d'un milieu bourgeois, artisan, des artisans qui vivent très bien, et elle en veut plus. Elle invite des hommes chez elle, mais on ne sait pas bien ce qu'ils font. On ne sait pas quelle est la limite. Elle les nourrit, et son mari, apparemment, enfin, c'est très touchant, parce que son mari est très très épris d'elle, et elle le fait tourner en bourrique. Il devient complètement fou. Alors il menace, parce que c'était des pratiques de l'époque, les femmes n'avaient pas la liberté qu'elles ont maintenant, et il menace de la faire interner, il convoque la famille, qu'il y ait des témoignages, etc. Mais il finit par tout lui pardonner, alors qu'elle a un comportement qui parfois est assez exaspérant. Et on ne sait pas exactement ce que les personnages veulent. Ça reste très énigmatique. Mais par contre, ça informe, ça donne des tas de flash comme ça, ouais. D'images sur la vie qu'il y avait à l'époque et la vie que pouvaient avoir ces gens-là.
Pour le film, Christophe Blin, vous avez choisi Butch Cassidy et le Kid. C'est un film réalisé par J.R. Hill en 1970. Charline, je sais que vous avez rêvé d'être Catherine Ross sur le guidon de Paul Newman. Parlez-nous un peu de bicyclette.
Alors en vrai, je ne suis pas très très vélo, je n'ai jamais réussi à me débarrasser des roulettes. Mais Paul Newman est bien Butch Cassidy, Robert Redford et son ami Sundance Kid, et ensemble ils pillent les trains et les banques.
Paul Newman is Butch Cassidy. And the Sundance Kid is Robert Redford.
Dynamite's ready, Butch.
Well, that ought to do it.
Most of this is true, and all of it blazes with action. You've never met a pair like Butch and Sundance.
I'll jump first. And you jump first.
No, I said.
What's the matter with you?
Ça vous fait un petit pincement, Christophe, d'entendre cette musique, Butch Cassidy and the Kid?
Bah oui, parce que c'est mon film préféré. Je le garde toujours pour la bonne bouche. Je veux pas le voir trop souvent. C'est un film qui m'a terriblement marqué.
Eh bien, vous avez deux bonnes bouches en face de vous qui attendent la béquille. Racontez-nous.
Ce film, vous voulez que je vous raconte
oui.
Le film?
Non, pourquoi vous l'aimez tant?
Pourquoi je l'aime tant? D'abord parce que c'est un film extraordinaire et c'est un western sentimental. Mm-hmm. C'est le western que je recommande. Je connais beaucoup de femmes dans mon entourage qui n'aiment pas spécialement le western et qui croient que le western est un genre macho, et ce qui est faux.
Beaucoup de préjugés sur le western.
Complètement faux, c'est complètement faux. J'expliquerai pourquoi plus tard. Et je leur dis, regardez ce film, il est fait pour les filles. Et effectivement, toutes les femmes qui ne sont pas du tout amatrices de western voient le film et tombent sous le charme parce qu'il est extraordinaire. Et c'est notamment à cause des moustaches de Robert Redford. C'est le film qui a lancé sa carrière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a créé le festival de Sundance en hommage au nom de son personnage. Et ça a été tourné en grande partie dans l'Utah. Et il a dit « Ah, l'Utah, c'est vraiment un endroit extraordinaire. » Il s'est acheté un ranch là-bas. Voilà pour la petite histoire. Et non, c'est un film qui est... Quand je l'ai découvert assez gamin, il y a la cascade qui me fait le plus de frissons qui est dans ce film, qui est le fait de marcher sur de marcher sur le toit d'un train. Mm-hmm. À chaque fois que je vois ça dans un western et même dans un autre film, quand les types marchent sur les toits des trains, voire des métros, comme Jean-Paul Belmondo, j'adore ces moments-là. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me donne des frissons.
Bon, Belmondo l'a refait, Tom Cruise l'a refait, mais il y a pas cette petite émotion.
Ah non, mais là, c'est formidable. Et c'est un film que je cite beaucoup dans mes bandes dessinées. Gus marche beaucoup sur les trains. Ouais. Et il adore attaquer les trains, et ça me vient de là. Non, c'est écrit extraordinairement. L'histoire est, et à la fois vive, drôle, romantique, aventureuse, c'est un film presque parfait.
Très bien, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec le western, puisque pour la série, Christophe Blain, vous avez choisi Les Mystères de l'Ouest. Série créée par Michael Garrison et diffusée entre 1965 et 69. Charline, vous êtes plutôt nordiste en tant que picarde, mais l'Ouest vous a-t-il toujours, vous aussi, semblé mystérieux?
Oh oui, Antoine, évidemment. Dans la série, James West et Artemus Gordon sont agents des services secrets américains. L'un est un séducteur tête brûlée, l'autre un inventeur zinzin et spécialiste du déguisement. Ensemble, ils combattent le docteur Loveless.
Alors, à l'époque, la série était présentée comme un James Bond à cheval. Pas des chevaux fiscaux, bien sûr. James Bond à cheval, ça vous parle, Christophe Blain, vous qui êtes calé donc en western?
Mais je veux dire qu'en fait, c'est une de mes premières émotions. Concernant le western, c'est arrivé en France en 75. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais 5 ans. Et à 5 ans, voir Les Mystères de l'Ouest, c'était quelque chose. Parce que on voit ces deux types qui sont habillés toujours de manière assez flamboyante et qui vivent dans un wagon très luxueux qui les emmène de mission en mission et qui ressemble à une chambre de gosse, en fait, simplement. Et ce qui est marrant, ça a été beaucoup dit à propos de cette série, c'est qu'un des producteurs était homosexuel et que la série est... Et le créateur, je crois, enfin le showrunner, je ne sais pas exactement quel... c'est un des producteurs indépendants importants de la série, et que la série est gay-friendly.
Ah oui.
Et qu'elle était ouvertement gay-friendly, parce que déjà, on voit Robert Conrad qui avait un physique très avantageux, c'était un petit musclé, et il avait des costumes moulants, satinés. Il est habillé un peu comme un torero avec des petites vestes très courtes, et on il y avait toujours des scènes où il se retrouvait torse nu, enchaîné par un quelconque méchant, qui était l'équivalent d'un méchant de James Bond. Le méchant le plus célèbre de la série était le docteur Loveless, qui était qui était un nain extrêmement cruel. Et c'est vrai, on était dans la même image, dans une imagerie très proche des années 60 et de James Bond, mm-hmm. avec des types qui voulaient être maîtres du monde, mais depuis le Far West. C'était très étrange.
Bien, Christophe Blain, terminons cette pop liste avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci.
Vous dansiez. Dansiez seul sur cette mauvaise musique, une drôle d'arithmétique, scandant de vieux poncifs fusés. Vous dansiez, vous dansiez, vous dansiez, vous dansiez, vous dansiez, et dans vos yeux.
Vous dansiez donc de Barbara Carlotti. Alors surprise, je m'attendais plutôt à une Dolly Parton ou une Patsy Cline. Amateur de western que vous êtes.
Je ne suis pas tant country que ça, à part pour Lee Hazlewood. Je suis country pop.
Ouais.
Parce que... Mais non, c'était parce que cette chanson exprime beaucoup de choses. Déjà mon amour des années 60 et surtout une rencontre avec Barbara. Vous avez parlé de Thomas Dutronc tout à l'heure. Je travaillais à l'époque sur la réalisation de son clip. J'ai fait un clip en dessin animé sur une de ses chansons. Et à l'époque, juste à ce moment-là, j'écoutais France Inter.
Quoi d'autre ?
Et j'ai entendu cette chanson. Et elle m'a tout de suite frappé. Et j'ai imaginé, vous voyez, sa voix chaude et extrêmement sexy. Elle ressemble un petit peu à la voix de Marie-France Pizier. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Et j'imaginais une petite brune qui chantait ça, une Marie-France Pizier. Et je travaillais à l'époque pour dessiner pendant les concerts d'Arthur avec Arthur H. On avait prévu de faire deux concerts ensemble. Et l'organisateur de ces concerts, qui s'appelle Benoît Mouchard, je lui dis, mais j'ai découvert une chanteuse. On allait voir Arthur, qui est un chanteur que j'adore. Et je lui dis, mais je viens de découvrir une chanteuse, là, j'entends. Elle est formidable. Et il me dit, mais très bien, c'est une copine. Chance extraordinaire. Et je l'ai rencontrée. Et c'est pas du tout une petite brune. C'est une grande blonde pulpeuse. Extraordinaire. Et on a tout de suite eu envie de travailler ensemble. C'est devenu une amie. Et on a fait un livre-disque ensemble qui fait référence à Butch Cassidy et le Kid, d'ailleurs, parce que ça parle d'un cow-boy moustachu. Voilà. Et Barbara est ma chanteuse préférée. Je l'adore et j'adore toutes ses chansons.
Alors, je résume La Révolte de Madame Montjean, Butch Cassidy et le Kid, Les Mystères de l'Ouest, Barbara Carlotti. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Vous dansiez.
Paul Newman is Butch Cassidy.
Pâle spectre, geste pathétique. Vous dansiez seul.
And the Sundance Kid is Robert Redford.
Hier comme aujourd'hui, les révoltes personnelles se glissent dans différents interstices des existences.
Dynamite's ready, Butch.
Well, that ought to do it.
Une drôle d'arithmétique.
Most of this is true.
Scandant de vieux poncifs fusés, vous dansiez.
And all of it blazes with action. You've never met a pair like Butch and Sundance.
What's the matter with you?
Voilà du Christophe Blain en son. Un concentré, ça vous va?
C'est moi.
C'est vous, bonjour.
Oui, oui.
Bonjour Christophe Blain. Antoine, enchanté, je présente Charline.
Oui, très bien. Oui.
Bien, Christophe Blain, passons de Barbara Carlotti à Bruce Springsteen, oui, car nous sommes à quelques jours de la sortie de son nouvel album, Western Stars, dont il serait exagéré de dire qu'elle me laisse indifférent. Alors on écoute un nouvel extrait, There Goes My Miracle.
Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, I'm searching for my love, searching for my love.
There Goes My Miracle, signé Bruce Springsteen, évidemment, et cet extrait de son album Western Stars, qui sort dans 10 jours, on en reparlera, je crois. Vous écoutez Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Christophe Blin pour parler de King Kong, votre adaptation sur des textes de Michel Picmal, du héros créé par Edgar Wallace en 1933. Dans votre King Kong, tout commença un soir d'hiver et je vous laisse continuer.
Et oui, après c'est l'histoire de King Kong avec la jeune fille engagée par le réalisateur despote mais visionnaire. Mm-hmm. Qui veut confronter cette jeune fille au singe géant, au gorille géant, et en tirer. Il avait raison, c'est lui qui avait raison, hein. On est d'accord avec lui, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'aventure. Mmh. Et protégé par un marin chevaleresque qui trouve qu'il exagère et qui veut sauver la jeune fille, formidable. Et voilà.
C'est un King Kong que vous aviez déjà publié en 2004 sous la forme d'un livre pour enfants, livre au tirage modeste qui est devenu culte et dont la cote s'est envolée auprès des collectionneurs. Pourquoi ne pas lui avoir redonné vie un peu plus tôt ?
Eh bien, je sais, ça m'était jamais venu à l'esprit, mais j'ai rencontré un éditeur avec qui je me suis très bien entendu on s'est dit mais pourquoi on ferait pas ça ? Je l'ai fait. Donc j'ai remasterisé ce livre, j'ai redessiné en partie, je l'ai recolorisé, j'ai re-scanné, comme on dit.
Je ne veux pas dire par là que vous êtes resté inactif depuis 2004, Christophe Blin.
J'ai rien fait depuis. Non, mais c'est vrai que j'ai pas sorti de livre depuis longtemps parce que je suis sur des projets qui sont très très lourds et pendant très longtemps. Donc je suis enfermé dans ma Batcave et je fomente des coups, mais pendant ce temps-là, je suis content d'avoir fait ce livre sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé que je ne croyais. Je me disais, bon, je vais faire une petite ressortie comme ça, et en fait, c'était un énorme travail.
Mais est-ce qu'on peut voir cette version 2019 comme une version plus adulte que celle de 2004 ?
Oui, déjà, la présentation.
On peut.
Oui, le livre d'origine, la maquette était très jolie, mais elle était destinée plus aux enfants. Là, on en a fait quelque chose d'un petit peu. Ça peut être lu par les enfants, mais j'ai rien ajouté qui l'empêche. Mais la maquette est un peu plus luxueuse. Elle a un côté un petit peu plus vintage qui sera proche de l'esprit de l'époque. On va même faire une version noir et blanc aussi.
En quoi King Kong est-il un monstre dans tous les sens du terme de la pop culture selon vous ? Parce qu'il a été adapté en dessin animé, en film, en BD, en tout ce qu'on veut, quoi.
Il est immédiatement frappant. C'était le film préféré d'Hitler.
Alors bon,
vous saviez ça ?
Non.
Non, il a vu ce film. Il était très marqué par Hollywood. Et ses films préférés, c'était King Kong et Blanche-Neige. Il voulait que les studios répètent. Il a compris le pouvoir d'Hollywood.
J'essaie de visualiser le mash-up des deux, de King Kong et de Blanche-Neige, vu par Adolf Hitler.
Voilà. Non, mais c'est un film. C'est évidemment un truc très frappant. Ce qui était difficile dans ce livre, c'est qu'en fait, on ne vient pas d'un texte comme d'un conte de Grimm ou quelque chose, mais déjà d'une proposition visuelle forte un film. Mais l'idée du film, l'histoire du film, vient effectivement d'un roman de Conan Doyle qui s'appelle The Lost World et qui est une aventure du professeur Challenger, des romans à épisodes, à séries qu'il avait écrit au début du siècle, dans les années 10. Et il raconte l'histoire du Lost World, qui est un endroit où le Jurassique aurait été préservé en haut sur un plateau et qui a inspiré après Michael Crichton pour Jurassic Park.
Et c'est donc pas pour ça que vous dédiez ce livre, je vous cite, à Adolphe et ses petits costumes satinés, c'est ça ?
Vous avez vu ça ?
C'est une erreur. C'est pas le même. La monstruosité n'engage que celui qui la dénonce, parce que l'idée de la légende de King Kong, c'est que le plus monstrueux n'est pas forcément celui qu'on croit. Comment est-ce qu'on travaille la monstruosité à visage humain et est-ce qu'elle est plus compliquée à illustrer ? Parce que pour moi, le monstre n'est pas le gorille. Hein. Je ne sais pas si j'ai besoin d'une psychanalyse, mais...
On est sur France Culture.
Pas mal, ouais.
De temps en temps.
J'ai rien compris à ce que vous... Non, je... Comment j'ai travaillé la monstruosité ? Je sais pas, j'ai fait ça à l'instinct, je peux pas expliquer mon instinct. non, c'était j'ai fait un King Kong qui je crois est il est presque encore plus étonné de voir la petite héroïne que il est, c'est lui qui a le plus peur en fait quelque part.
C'est l'innocence King Kong.
Oui, oui, oui. Mais c'était marrant justement de choisir un King Kong. J'ai pas du tout, quand je l'ai fait, j'ai pas du tout voulu revoir le film de Cooper et Chodzak. Ouais. Je l'ai fait de mémoire et celui de Jackson n'était pas encore sorti. Il sortait quelques mois plus tard. C'est d'ailleurs à cette occasion que le bouquin avait été fait. C'est parce qu'on commençait à reparler de King Kong. Et j'ai voulu travailler que sur la mémoire. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu. Même maintenant, parce que la proposition de ce film est très, très forte. Il y a un King Kong qui est très personnel, avec des yeux qui roulent, etc. Et donc, je me suis inspiré d'un vrai gorille, mais pas tout à fait. Mmh. Je l'ai fait beaucoup plus grand, parce qu'en fait, c'est un monument. Mmh. C'est un monument de la pop culture.
Oui.
Donc, King Kong, il fait 6-7 mètres de haut, et j'en ai fait un truc qui n'a pas de taille, en fait.
Je crois que ce que voulait savoir Charline, dites-moi si je me trompe, c'est est-ce qu'il y a du King Kong en vous?
C'est très certainement.
C'est ce que vous avez compris,
oui,
la question.
C'est pas ça.
Il faut vraiment que je travaille à la reformulation, on a un vrai gros souci.
Il y a du King Kong en vous? Vous seriez en faire une théorie comme Virginie Despentes?
Je suis assez poilu. Mais oui, il y a du King Kong en moi, bien sûr.
Mm-hmm. Votre premier souvenir à vous de King Kong, il remonte à quand?
Alors, il est extrêmement précis. C'était une petite cérémonie, un choc esthétique, comme je les aimais beaucoup quand j'étais enfant et que j'ai essayé de reproduire moi-même en tant que père. C'est que mes parents m'avaient dit ce soir, j'avais 7 ans, et ils passaient à la télé, et ils m'avaient dit, bon, demain, c'était je crois un dimanche soir, je regardais pas de film le dimanche soir, il y avait école le lundi matin, mais il a dit exceptionnellement, on a quelque chose, il y a un film qu'il faut que tu vois, tu vas peut-être avoir très peur. C'était dans la fin des années 70. mais il faut que tu le vois, parce que à l'époque il y avait pas de DVD, on n'avait pas de magnétoscope non plus, et donc j'ai regardé King Kong et j'ai découvert King Kong et c'était un choc esthétique. J'ai trouvé ça, et je me souviens encore j'ai regardé ça entre mes deux parents, qui pensaient que j'allais être effrayé. Je me rappelle, est-ce que j'ai été effrayé? Non, j'étais fasciné, j'étais envoûté tout de suite. Et voilà.
Christophe Blain, vous aimez les gorilles géants, vous aimez les westerns, et la légende prétend que vous ne travaillez jamais sans un colt à portée de main.
Comment vous le savez?
Je sais tout.
Je me sens observé.
Quel type de calibre, par exemple? Parce qu'il paraît que ça raconte quelque chose sur le propriétaire.
Je suis comme Paul Schrader qui a. Je me compare pas à lui. Paul Schrader, vous savez qui est Paul Schrader, naturellement. C'est le scénariste de Taxi Driver, entre autres. Mmh. Et il a écrit tout Taxi Driver avec un revolver chargé sur la table. Mmh. Ce qui explique l'état d'esprit
du film. Pour faire comme Paul Schrader.
Oui, j'écris avec un Colt chargé.
Il est chargé, c'est important de le préciser.
Bah oui, sinon, quel intérêt?
Mais c'est-à-dire, c'est l'objet qui vous fascine? C'est votre côté cow-boy ou c'est militantisme pour la NRA?
Je suis fétichiste. J'aime les chaussures à talons.
D'accord.
J'aime. T'es bien inspiré d'en mettre aujourd'hui.
J'aime les chapeaux de cow-boy. Mais quand on aime le western, on est forcément fétichiste. Mm-hmm. J'aime les voitures américaines, j'aime tous les trucs de petits garçons, en fait. J'aime les trucs de petits garçons.
Et vous n'avez pas forcément tout ça autour de vous quand vous travaillez?
Bah, quoi d'autre?
Et
bien sûr que oui. Je travaille dans un garage.
Ouais, avec des chaussures.
Avec des chaussures.
Je ne juge pas, je m'informe.
Bon, et puisqu'on est au western, je ne peux pas ne pas vous poser la question. On attend le Blueberry que vous allez co-signer avec Johan Sfar.
Oui, moi aussi je l'attends beaucoup.
Vous l'attendez aussi beaucoup, oui.
Énormément.
Il va finir par arriver?
Oui, je suis. Là, je ne travaille pas dessus parce que je suis avec vous, mais sinon, je ne fais que ça. Je suis complètement obsédé, immergé. Plonger dedans complètement.
On peut l'espérer pour quand celui-là?
Pour l'automne.
Pour l'automne 2019.
Pour l'automne 2019.
Ah oui, demain donc.
Très bien.
Oui.
En attendant, c'est King Kong dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui, Christophe Blain, un King Kong absolument sublime. Vous en parlez d'ailleurs plus comme d'un livre d'art que comme d'une bande dessinée. Vous trouvez que le terme BD est trop restrictif d'une manière générale?
Non, c'est parce qu'en fait, c'est pas réellement une bande dessinée. Il y a des séquences de bande dessinée avec en quatre cases, mais qui sont pas réellement c'est des séquences de bande dessinée, mais à l'ancienne. Et puis c'est un livre d'illustration. Et puis c'est vrai que quand on est illustrateur, dès qu'on doit illustrer un mythe, on s'éclate. Il y a un côté, on voit toutes les références qu'il y a avant. On veut pas trop les regarder, pas trop s'y référer, mais n'importe quel illustrateur qui doit faire Dracula, King Kong, l'île au trésor, c'est une étape très importante. C'est les mythes fondateurs. Donc dès qu'on les aborde, on a une excitation, une peur particulière, et puis voilà.
Bon, Christophe, vous savez à peu près tout faire, vous travaillez avec un Colt chargé à portée de main, est-ce que vous savez faire ça?
Non, mais d'ailleurs, attendez, je vais essayer, je peux me permettre?
Allez-y.
Bah si, vous savez faire. Et
je suis assez surpris parce
que moi aussi.
J'ai déjà entendu votre émission que j'écoute parfois en dessinant. Mm-hmm. J'aime bien qu'on me parle.
Ça m'arrive aussi.
Quand je suis tout seul dans mon atelier, que mon camarade d'atelier n'est pas là, je me sens seul, j'aime bien qu'on me parle, alors je vous écoute, et je croyais que c'était pas un vrai bruit.
Mais
je pensais que c'était un bruit de poste. Et je suis surpris de voir qu'en fait, à chaque fois, vous faites vos cascades vous-même.
Mais c'est-à-dire oui.
Vous le faites vraiment
mais
à chaque
oui.
fois.
Ouais. Pas de ça chez nous, évidemment. Ouais. Moi aussi, j'aime les westerns. Bien, de toute façon, c'était pour lancer les pop news.
Amis pop voyageurs, vous pouvez désormais aller à Londres sur les traces de vos séries, films, livres et chansons préférées, et ce grâce au guide de Londres de Fan Trippers. Nous vous avions parlé ici même de la version parisienne. Évidemment, vous trouverez un parcours Harry Potter, la librairie de coup de foudre à Notting Hill, la boutique de costumes de Kingsman, le Regent's Park de Mary Poppins, Buckingham Palace pour les fans de The Queen ou encore le Baker Street de Sherlock. C'est à pister dans le guide de Londres des milieux cultes, c'est édité par Fan Trippers.
Du 8 au 9 juin pour le IN, du 1er au 30 juin pour le OFF, c'est le Lyon BD Festival. Toute la ville sera donc en ébullition.
C'est excellent.
Parmi les artistes programmés, Pierre Alary, Boulet, Fab Caro, Jigé, Prado, Aurélie Néret, Aude Picot, Timothée Leboucher, Willem ou encore Pénélope Bagieux, qui proposera au Transborder un concert illustré de Brigitte. Tous les renseignements sur lyonbd.com.
Et en concert ce soir aux Étoiles à Paris, eux.
Dis-moi si je dois partir ou pas, dis-moi.
Les Bébés Brunes pour un concert qui donnera l'occasion aux garçons de jouer sur scène l'intégralité des morceaux de leur nouvel album, le 5e, dont la sortie ne devrait plus tarder.
France Inter. Pop pop. Antoine Decaune.
Alors là, je ne l'ai pas.
Bucking Kong.
Bon, ah,
évidemment,
ouais,
King Kong. Bon, enfin, Christophe l'avait reconnu tout de suite, non, Christophe?
Absolument.
Ben, évidemment, c'est King Kong. Bon. Avant d'accueillir le trio électrique Bon Entendeur, on les écoute avec leur reprise d'Isabelle Pierre, Le Temps est bon.
Le temps est bon,
temps est bon, chantait Isabelle Pierre, je crois que c'était en 72 ou peut-être 76. Qui peut me le dire, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Vous écoutez Pop à Pop sur France Inter, c'est surtout un morceau signé du collectif Bon Entendeur qui vient de nous rejoindre. Bonjour messieurs, bonjour Bon Entendeur.
Bonjour. Bonjour.
Pas plutôt comme on dit, Bon Entendeur, salut.
On nous l'a jamais fait.
Bien, alors Bon Entendeur, c'est vous, Pierre Delamonica, Nicolas Boisselot et Arnaud Bonnet. Vous êtes tous les trois passionnés par la culture française et le bon son et vous avez un but simple, faire rayonner la culture française à travers le monde. Est-ce que c'est bien cela ?
Alors c'est assez gros dit comme ça, mais
une mission.
En tout cas c'est belle mission. Ouais.
Mais à travers le monde, on ne sait pas encore, mais en tout cas la faire rayonner à notre manière,
à notre humble niveau.
Ouais. Et proposer simplement aux gens qui nous suivent la musique qu'on découvre et les discours qu'on aime ensemble.
Alors pour faire rayonner la culture française à travers le monde, vous associez des voix de personnalités à des morceaux électro pour en faire des mixtapes. La première c'était en 2012 et c'était celle-ci.
Ce qui s'est passé, c'est une relation. Non seulement inapproprié, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Alors là, on est loin d'Isabelle Pierre, hein. Ce très cher DSK qui parle de l'affaire du Sofitel et une première mixtape écoutée plus de 800 000 fois. Mais alors pourquoi avoir commencé par DSK alors qu'en dehors de Jacques Chirac, la mixtape de Jacques Chirac est écoutée presque 2 millions de fois, vous ne traitez pas les hommes politiques, si je puis dire?
On essaie d'éviter de d'être associé à quelconque parti, donc on a fait celle de DSK en première, mais c'était simplement une blague et ça représente pas du tout toutes les autres qu'on a pu faire par la suite. Mais en tout cas, ça nous a permis d'imaginer ce concept et de tirer le fil parce qu'on a vu que tout de suite ça marchait très bien. Enfin, les gens qui nous suivaient avant qu'on fasse la première mixtape ont adoré ce concept et on s'est dit que on avait 1000 autres idées de discours à mettre en avant et encore beaucoup de musique à proposer. Donc voilà, ça a permis de lancer la machine un peu.
Ça, c'était Arnaud Bonnet qui s'exprimait à l'instant, la tête pensante du trio donc.
Exactement.
Vous en parlez comme d'une blague de ce discours, mais c'est quand même une blague dont Pierre connaît encore le texte intégralement par cœur, parce que je viens de le voir réciter au moment où on écoutait le... C'est très surprenant à voir.
Oui, je sais pas comment ça se fait, c'est qu'en fait le discours nous avait marqué.
Pierre Delamonica.
Tout à fait, Pierre Delamonica, parce que le discours nous avait marqué, c'est clairement la langue de bois. Tous les mots sont choisis et parfois on le joue en live, on l'édite ce morceau. C'est ce qui fait beaucoup rigoler nos fans. Et oui, je sais pas, il m'a marqué. Il y a d'autres discours qui m'ont marqué, mais notamment celui-là.
Et alors pourquoi avoir choisi ce nom, Bon Entendeur ? C'est capacité auditive exceptionnelle ou grande facilité de compréhension en ce qui vous concerne ?
Alors on l'assumait pas spécialement à l'origine, mais simplement ça vient de l'expression un bon entendeur salut. On parle de musique, donc voilà, on trouvait que ça avait du sens.
Alors, Bon Entendeur, c'est quand même 30 millions d'écoutes dans le monde entier. C'est bon, ça veut dire que la culture française rayonne grâce à vous, messieurs. Nicolas, vous n'avez pas encore parlé.
Alors ouais, du coup, 70 maintenant.
70 millions ?
Ouais.
Je suis désolé, c'était une information d'Aurélien Hesvan, notre rédacteur en chef.
Ça rayonne, oui, dans le monde. Alors principalement en France, quand même. La plupart de notre audience est française ou francophone. Après, quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on nous écoute un peu partout dans le monde. Mais à chaque fois, c'est les communautés de Français aussi à qui on parle le plus, qui peuvent nous écouter dans les villes où ils sont nombreux.
Vous le disiez, grosse responsabilité de nous faire rayonner. Comment est-ce que vous choisissez les ambassadeurs que vous allez mettre en avant ?
C'est assez collégial pour le coup, c'est-à-dire qu'on en discute tous les trois et autant sur d'autres aspects du projet, on est très structuré et on en parle pendant très longtemps, etc. Alors que pour les personnalités qu'on choisit, c'est un peu, il suffit qu'on voit quelqu'un à la télé qui nous inspire, on se dit tiens, ça pourrait être pertinent ou une actualité ou quelqu'un qu'on peut voir dans la presse ou peu importe. Et il suffit qu'on soit tous les trois d'accord, mais pour le coup, c'est une décision qui est collégiale.
Depardieu, Jean Reno, Pierre Ninet, pour ne citer qu'eux, tous sont passés dans votre mixeur de pop culture mensuel et le dernier en date, c'est mon Jean Rochefort à moi. Avec la mixtape d'avril.
Les regards de mes collaborateurs ignorants du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoués à leur labeur inepte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. mais au défi d'une société dont je respectais la morale, il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience.
Christophe Blin, c'est bien, écoutez ça quand on travaille, quand on dessine, non? Vous qui aimez écouter du son?
Ah oui, absolument.
Parfait.
Je ne vais plus écouter que ça.
Hein ouais, non, vous écouterez aussi Pop Pop Pop, s'il vous plaît. Hein. Pas déconner.
Ah, je ferai une alternance.
Voilà, vous ferez une alternance. Bien. Comment ça va être le tube de l'été, le Rochefort, on est d'accord?
On ne sait pas. On ne peut jamais savoir.
En fait, ouais, c'est difficile à prévoir. On a à chaque fois notre vision de la mixtape. Parfois, on est plus ou moins satisfait. Et en fait, parfois, les gens n'ont pas la même réaction que nous derrière. Donc, on a du mal, même après 50 mixtapes, on a toujours du mal à anticiper ce qui se passe.
C'était Arnaud qui s'exprimait, la tête pensante. Donc, comment faites-vous pour choisir le discours et l'organiser dans les mixtapes? Alors, parce que Rochefort, par exemple, il a tenu tellement de propos, il y a eu tellement d'interviews. Comment est-ce que vous faites la sélection et comment vous organisez ça?
En fait, ça dépend aussi, déjà, si on a la chance de pouvoir interviewer la personne ou même, chose mm-hmm. qu'on essaie de systématiser le plus possible. Mais dans le cas de personnalités comme Jean Rochefort, qui sont malheureusement plus là, on écume Internet, que ce soit YouTube et
Jean
plein
Rochefort
d'autres sources.
Plus là.
Voilà. Du coup, non, on cherche sur plein de supports, que ça soit sur YouTube ou sur l'INA, et on écoute des heures et des heures et des heures, et puis on sélectionne, et on les découpe, et puis ensuite on les intègre dans les espaces qu'on trouve opportuns, mm-hmm. Donc c'est un des mixtapes.
Vous savez déjà qui sera la prochaine personne à passer dans votre mixeur? Antoine.
En fait, on a une shortlist avec Antoine, on voulait venir pour lui demander.
En tête de liste, c'est pour ça qu'on est fait.
C'est vraiment super, si ça pouvait être Antoine. La légende raconte que Jean Reno aurait découvert sa mixtape pendant un dîner et aurait passé sa soirée à danser dessus. Vous savez si DSK a fait pareil?
Je suis moins sûr.
C'est possible, mais en tout cas, on n'a pas eu de retour, si c'est le cas.
Et pour rester dans la politique, je sais que vous avez été approché pendant la campagne par des personnalités politiques. Alors attendez. C'était qui?
Je crois qu'on s'est toujours refusé à le dire. Et
puis il y en avait plusieurs en plus.
Et moi, j'assumerais pas de le dire là. Alors à vous de.
C'était pas des personnalités politiques, mais c'était les représentants de leur parti qui souhaitaient rajeunir leur électorat. Voilà. C'est le seul indice.
Donc indice numéro 1, c'est un politique qui n'est pas très jeune, du coup.
Ça serait pas lui?
Ça, je ne connaissais pas.
J'ai jamais entendu.
C'est génial.
Notre président, ici remixé par Raled Freck sur YouTube. Bon entendeur, vendredi sort votre premier album Aller-Retour, titre en référence à vos inspirations puisées dans le passé. Nous allons entendre dans quelques instants un extrait de cet album avec le morceau La Rua Madureira. Je l'ai bien dit, La Rua Madureira, parce que j'ai un très mauvais accent.
Non, je le trouve parfait, moi.
Votre remix de du morceau de Nino Ferrer, mais pourquoi ne pas avoir sorti un album plus tôt?
Pourquoi ne pas avoir sorti un album plus tôt? Oui. Parce que on était déjà très occupé à faire déjà quelques tournées, beaucoup de mixtapes et avec un rythme assez soutenu. Mmh. On a du coup, ça fait un an qu'on bosse sur l'album et on a un peu espacé les sorties de mixtapes pour se consacrer à ce nouveau projet. En même temps, on a été poussé par d'autres personnes, Columbia, notre label, qui nous a proposé de nous suivre sur cette aventure. Donc, simplement. Je sais pas si vous voulez compléter ce que je dis, mais
c'est l'album de la maturité, peut-être.
Non, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, que ce soit le succès des mixtapes, les écoutes, etc. On a essayé de revisiter la première chanson, donc Le Temps est bon, et on se doutait pas que ça allait plaire autant. Donc on s'est dit, bah, allez hop, on continue, et on s'est un peu tous motivés. Mais si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on allait faire un album, on l'aurait pas cru.
Bien, à bon entendeur, salut donc.
C'est excellent.
Bon, bon entendeur, moi aussi j'aime bien les vieilleries et c'est l'heure pour moi de descendre dans la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas.
Ouais, du coup
Didier, qu'est-ce que vous faites là?
Ouais, tu peux dire aux tapettes là-haut qu'elles ont oublié quelqu'un dans leur mixtape de merde.
Quelqu'un?
Ah ouais, il est où mon Dick?
Je sais pas moi, au Père Lachaise, non?
Ta gueule! Respecte le sacré, putain! En plus, je l'avais déjà remixé à la sauce électro!
Ah oui?
Hé, ça donnait ça!
Dis-moi comment tu fonctionnes. ouais.
Ça sonne bien.
Ouais. Comment tu fonctionnes, oui. Je vais leur remonter le vinyle.
Ah ben voilà. Ça, c'est de la zik.
Ouais. Bah, en attendant, on va écouter leur remix de Nino Ferrer.
Tu vas pas jouer mon remix?
Demain, Didier. Demain, vous inquiétez pas, mais je le ferai.
Oh hein. Putain, tiens, non, je le ferai. Regarde ta cave, non, tout est vinyle pourri. Didier, regarde ce que j'en fais.
Didier.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Qui nous conduisait à l'aéroport, tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais.
Madureira de Nino Ferrer, remixé par Bon Antonio. Didier, calmez-vous là. Et ça va, je passerai demain, j'y... Bon. Merci, bon entendeur. Vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez à l'Olympia le 7 novembre, mais c'est déjà complet. Séance de rattrapage en mars au Zénith de Paris. Et d'ici là, on vous retrouve sur les internets avec vos mixtapes. Et je rappelle que votre premier album Aller-Retour sort vendredi. Merci, Christophe Blin. King Kong, ça sort demain aux éditions Robinson. Et une fois de plus, c'est une réussite absolue. Je vous en félicite. Bravo. Merci à l'équipe de Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Paul Percheron, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, dans Pop, une émission qui s'annonce nulle. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr et si vous êtes un Jones 3.0, un yeuve ou une yeuvesse à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Didier à la fin de ses tutos homestaging sur YouTube.
Ben voilà, j'ai fait place nette.
Oui, Didier. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 pop hop sur Instagram et Twitter.